Il y aura certainement des moments où la peur affluera, où nous serons dos au mur, où il semblera qu'il n'y a plus d'espoir. Que faisons-nous dans ces circonstances? Parce que Jésus-Christ a terminé cette œuvre et accompli son expiation, il comprend comment nous aider à faire face à nos propres insécurités et tentations. Ainsi, quels que soient les défis ou les difficultés auxquels vous faites face, vous êtes connus. Votre situation exacte en ce moment est présente devant Dieu, et nous pouvons le dire avec confiance. Mes amis, je veux vous parler de l'une des plus grandes bénédictions de la vie, Costco. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont allés chez Costco et que vous adorez ces échantillons. Vous pouvez entrer affamés et sortir rassasiés, surtout s'ils ont des échantillons plus gros comme les taquitos. C'est celui auquel je ne peux pas résister. Mais parfois, et peut-être que je suis le seul à faire ça, j'ai juste envie d'y retourner pour un deuxième échantillon. Mais je me sens un peu. Tu as le droit de faire ça. Je vais monter et je ferai comme si je lisais les ingrédients. Je suis vraiment intéressée. Mais la travailleuse me regarde et elle me dit « Je t'ai déjà vu. Vous n'êtes que le deuxième échantillon. Je sais qui tu es. Maintenant, écoutez, si le pire label ou le pire nom qu'on vous ait jamais donné est celui du deuxième échantillon, ce n'est probablement pas si mal. Mais une fois que vous quittez la terre promise de Costco et que vous entrez dans ce monde méchant, d'autres étiquettes peuvent nous parvenir et peuvent être vraiment blessantes. Stupide, sous-performant ou pire. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est d'une étiquette que Dieu a donnée à Moïse. Il lui dit « Tu es mon enfant et j'ai une œuvre à te confier. » Aujourd'hui, alors que nous parlons d'identité, de tentation et de gloire, nous verrons comment Dieu nous donne la sécurité dans notre identité, et cela nous fortifie face à la tentation, nous permettant d'approfondir notre sécurité en Dieu alors que nous lui rendons gloire. Donc identité, tentation et gloire. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles? Je me souviens avoir regardé le film quand j'étais enfant, et ça n'a pas vraiment cliqué. N'est-ce pas bizarre que vous ayez cette chenille bleue qui fume dans un film pour enfants? Mais quoi qu'il en soit, la chenille pose une question à Alice. Qui es-tu? Si vous vous en souvenez, Alice a eu une journée très confuse. Alors elle dit, je ne sais pas, monsieur, juste pour le moment, au moins je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je pense que j'ai dû avoir été changée plusieurs fois depuis. Alice avait du mal avec son identité. Il s'agit d'un sujet important car une étude récente a été menée auprès de 10 000 étudiants et les chercheurs ont découvert que lorsque les jeunes adultes avaient un sentiment d'identité stable, leurs résultats en matière de santé mentale étaient bien meilleurs. C'est pourquoi je pense que c'est si puissant que Dieu révèle à Moïse son identité dès le départ. Il dit, « Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es mon fils, c'est pourquoi regarde, et je te montrerai l'ouvrage de mes mains. J'ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils. Et je témoigne que ces paroles sont vraies pour chacun de nous. Nous sommes enfants de Dieu et il a une œuvre pour nous. Vous vous souvenez de ce que Patrick Kéharon a récemment enseigné? Vous êtes un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une belle chanson que nous chantons. Voudriez-vous, s'il vous plaît, accepter, ouvrir et recevoir de sa part ce don de connaissance et de compréhension? Le tiendrez-vous près de vous comme un précieux trésor? Recevez à nouveau ce cadeau, ou peut-être recevez-le vraiment pour la toute première fois, et laissez-le transformer tous les aspects de votre vie. Maintenant, réfléchissez-y un instant. À quoi cela ressemblerait-il si le fait de savoir que vous êtes un enfant de Dieu transformerait chaque aspect de votre vie? À certains égards, cela est tellement contre-intuitif parce que le récit du monde est presque à l'opposé. Vous devez construire votre propre marque. Vous devez faire quelque chose de vous-même. Mais c'est une vérité dont je témoigne. Dans les Écritures, l'identité n'est pas quelque chose que nous créons, c'est quelque chose que nous recevons. Il n'est pas organisé sur Instagram ni amélioré sur Photoshop. C'est accordé par Dieu. Si nous ne comprenons pas cela, nous nous épuiserons à essayer de prouver quelque chose que Dieu a déjà déclaré. Il existe de nombreuses façons de voir cela dans la vie. Imagine-as Jessica. Elle est à genoux pour prier. Ce n'est pas une de ses prières à la manière d'Eno. C'en est un. Priez pendant 3 secondes et rappelez-vous que vous avez oublié de déplacer le linge du lave-linge au sèche-linge hier. Vous êtes comme, oh, non. Comment la prière de Jessica change-t-elle? Comment se transforme-t-elle lorsqu'elle se souvient que je suis un enfant de Dieu? Le président Nelson a posé la même question que la chenille. Qui êtes-vous? Mais sa réponse était meilleure que celle d'Alice. Il a dit, avant tout, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de l'Alliance. Vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Le président Nelson a poursuivi en disant, ce soir, je vous supplie de ne pas remplacer ces 3 identifiants primordiaux et immuables par d'autres, car cela pourrait entraver votre progression ou vous enfermer dans un stéréotype qui pourrait potentiellement contrecarrer votre progression éternelle. Il existe bien sûr différents labels qui peuvent être très importants pour vous. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les autres désignations et identifiants ne sont pas significatifs. Je dis simplement qu'aucun identifiant ne devrait déplacer, remplacer ou avoir la priorité sur ces 3 désignations durables. Enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple de Jésus-Christ. Tout identifiant non compatible avec ces 3 désignations de base finira par vous décevoir. D'autres étiquettes vous décevront avec le temps car elles n'ont pas le pouvoir de vous conduire vers la vie éternelle dans le royaume céleste de Dieu. Pensez à quel point l'expérience d'Alice aurait été complètement différente si la chenille avait dit « Qui es-tu ?» Et elle a dit « Eh bien, je suis un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance, un disciple de Jésus-Christ. Je ne sais pas, cela aurait pu gâcher l'intrigue de l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais je pense qu'Alice se serait certainement sentie mieux. L'année dernière, je suis allée à une conférence biblique. C'était génial. Plus de 13 000 personnes parlent de la Bible. Mais pour moi, le meilleur moment a été une soirée. Je suis allée chez mon frère et ma belle-sœur et je les ai rejoints pour la prière en famille. Et en famille, avant la prière familiale, ils chantent ensemble un chant spécial. Ce n'est pas un chant officiel de l'Église. Il a été écrit par une femme nommée April Enfield, une de nos voisines. Et la chanson qu'ils chantent est comme ça. « Je suis un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance, un disciple de Jésus-Christ. Je sais qui je suis, je fais partie du plan de Dieu. » Je peux sentir son amour à l'intérieur. Oui, je suis important pour lui. J'ai été très touchée en regardant cette famille chanter cette chanson ensemble. Et je me suis demandé, qu'est-ce que cela fait à un enfant de 4 ans de grandir chaque jour en chantant ces paroles? Je suis un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance, un disciple de Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Je fais partie du plan de Dieu. Je peux sentir son amour à l'intérieur. Oui, je suis important pour lui. Si vous êtes intéressé, je mettrai un lien vers cette chanson et sa partition sur le site web de notre classe, si vous voulez creuser et essayer de la chanter vous-même un jour. C'est tellement pratique. Laissez-moi vous présenter Nicole. C'est une jeune maman. Elle est super occupée. Elle a 4 enfants de moins de 9 ans. La vie est dure. La plupart de son temps est consacrée à essayer de garder les choses propres et d'éviter les ennuis aux enfants. Mais elle a des passe-temps amusants. Elle apprend depuis peu à faire du pain au levain. Elle adore ça. Mais comme tout le monde, Nicole a son lot de difficultés. Je veux que vous preniez juste un moment et réfléchissiez à vous-même. Quelles sont les difficultés réelles que Nicole pourrait avoir à affronter différemment si elle ressentait profondément dans son cœur qu'elle était une enfant de Dieu, une enfant de l'Alliance, une disciple de Jésus-Christ? Quelqu'un serait-il prêt à partager avec nous une situation hypothétique à laquelle Nicole pourrait être confrontée? Je m'appelle aussi Nicole et j'étais autrefois une jeune maman avec 4 enfants de moins de 4 ans. Et donc je peux tout à fait comprendre à quoi ressemble la vie de Nicole. Et je me souviens d'avoir vécu des jours où j'avais l'impression de ne pas compter. Tout ce qui comptait, c'était de s'assurer que tout le monde était nourri, nettoyé et emmené là où il devait aller. Et parfois, mon existence semblait sans importance dans l'ensemble des choses. Je pense que connaître et comprendre mon rôle de fille de Dieu m'aide à me sentir beaucoup plus valorisée. J'ai de la valeur aux yeux de mon Père Céleste. Y a-t-il eu une expérience? Ou comment avez-vous commencé à intérioriser ce sentiment dans votre cœur? Je vais partager une expérience que j'ai eue une fois. J'étais à l'église et mon fils, un de mes fils, a vomi au milieu de la réunion de Sainte-Seine, au centre de la rangée, et j'étais assis à l'église en pensant « Quel est le but de cela ?» J'ai senti à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a enveloppé dans une étreinte et j'ai ressenti, physiquement, cette étreinte du Sauveur, avec l'impression que je te connais, je te vois, je t'aime. Merci. C'est beau. Je n'ai jamais été une jeune mère, mais j'imagine que l'un des problèmes de Nicole est peut-être la comparaison. Elle pourrait regarder une vidéo d'une famille chantant une belle chanson sur le fait d'être des enfants de Dieu et pensant « Il n'y a aucune chance que je peux faire ça dans ma famille, ou je suppose que je suis une mauvaise mère parce que je ne fais pas ça. » Mais lorsque nous nous souvenons que nous avons une valeur complètement distincte de tout ce que nous faisons, que nous avons intrinsèquement une valeur en tant qu'enfants de Dieu, alors tout d'un coup, nous perdons ce besoin de nous comparer aux autres. Maintenant, faisons une référence croisée à Abraham 3. Cela se passe dans les conseils prémortels dans le ciel. Nous lisons « Le Seigneur m'avait montré, Abraham, les intelligences qui étaient organisées avant que le monde ne soit. Et parmi tout cela, il y avait beaucoup de nobles et de grands. Et Dieu a vu ces âmes qu'elles étaient bonnes. Et il me dit, Abraham, tu es l'un de ceux qui ont été choisis avant de naître. C'est une autre identité qui change la façon dont nous nous percevons. Nous avons été choisis par Dieu, nobles et grands, avant même notre naissance. Maintenant, en revenant à l'histoire de Moïse, Dieu montre à Moïse l'étendue de l'univers, ses créations, et Moïse est bouleversé. Il tombe à terre, Dieu s'en va et il faut un certain temps à Moïse pour retrouver ses forces. Quand il le fait, il dit « Maintenant, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais imaginé. Maintenant, pensez à Moïse. Il a grandi dans la maison du Pharaon. Alors, quand il réfléchit à ce que signifie être quelque chose, il a Pharaon comme modèle, super puissant, capable de faire tout ce qu'il veut. C'est ce que Moïse pense être la véritable réussite. Mais une fois qu'il voit l'œuvre de Dieu, il réalise que je ne suis rien. Cela me rappelle ce que le roi Benjamin a dit. Vous ne pouvez même pas dire que vous êtes autant que la poussière de la terre. Cela peut sembler décourageant, n'est-ce pas? Vous allez sortir de cette pièce, quelqu'un va vous dire, « Oh, Comment se passe le cours « Trouver le Christ dans l'Ancien Testament » Je me dis, je ne sais pas. J'ai appris que je n'étais rien, moins que la poussière de la terre. Super. Quelle classe. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment libérateur parce que parfois nous devons avoir l'impression de nous faire quelque chose. Je suis bon grâce à ce que je fais au travail, ou à mes passe-temps, ou je suis un athlète, ou je suis vraiment bon à l'école, ou j'ai beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, ou j'ai une grande réputation. Mais si nous bâtissons nos fondations sur l'une de ces choses, que se passe-t-il si j'échoue au test ou si les gens arrêtent de commenter mes publications? Si je dois avoir certaines de ces choses pour être quelque chose dans la vie, cela s'effondrera. Mais si je réalise que je ne suis rien, alors j'ai une sécurité que je ne perdrai jamais. Parce que je réaliserai que mon identité n'est pas basée sur ce que j'ai ou ce que j'ai fait. Cela dépend de qui je suis et de ce qu'il a fait. C'est une sécurité que je ne peux pas perdre. Je témoigne que le sentiment de sécurité le plus profond ne vient pas du fait de croire que je suis quelque chose. Cela vient du fait de savoir que Dieu est tout et que je lui appartiens. Mentalement, répondez à l'une de ces deux questions. Comment la compréhension de votre véritable identité vous a-t-elle renforcé? Ensuite, deuxièmement, nous savons tous que nous sommes des enfants de Dieu. Mais comment pouvons-nous le ressentir profondément? Concentrons-nous un instant sur cette deuxième question, car nous avons entendu ce message. Mais comment pénètre-t-il au plus profond de nous? Quelqu'un est-il prêt à partager une réflexion? Je suis rentrée à la maison au milieu d'une journée bien remplie la semaine dernière et je me suis mis à genoux, troublée et dépassée, et j'ai réalisé que j'avais juste besoin de me lever et de continuer. Je marche dans le couloir de ma maison et j'ai commencé à chanter « Je suis un enfant de Dieu ». Et je n'avais pas chanté cette chanson depuis des mois et des mois. Je me suis arrêtée et j'ai pensé « Pourquoi est-ce que je chante ça ?» Juste à ce moment-là, j'étais du côté où il était dit « De riches bénédictions nous attendent ». Et j'étais tellement submergée par l'amour de mon Père Céleste, qu'il me connaissait à un niveau si personnel, si intime, que cette chanson me venait à l'esprit et que je serais sur cette phrase particulière qui me donnait une réponse très personnelle et une assurance qu'il me connaissait, qu'il m'aimait, et oui, je devais continuer. Merci. Ainsi Moïse, dans cette révélation de Dieu, commença vraiment à comprendre son identité. Mais aussitôt, la tentation est venue. Peu de temps après le départ de Dieu, Satan est apparu et a dit, « Moïse, fils de l'homme, adore-moi. » Maintenant, il y a plusieurs choses que nous pourrions dire à ce sujet. Tout d'abord, rappelez-vous que Dieu dit, « Tu es mon fils. Vous êtes un enfant de Dieu. » Satan attaque l'identité de Moïse. Il l'appelle fils de l'homme. Nous pourrions probablement passer une heure simplement à parler des attaques de Satan contre notre identité. Mais pour l'instant, je voudrais examiner un deuxième point ici, à savoir comment Satan nous tente de douter de la révélation que nous venons de recevoir. Moïse vient de recevoir cette révélation, « Je suis un fils de Dieu ». Et c'est précisément sur ce point que Satan le tente. Peut-être quelque chose nous avons vécu cette expérience où nous avons prié et nous nous sommes dit « D'accord, il est temps de déménager, ou je devrais faire une mission ». Et peu de temps après, nous commençons à ressentir de la peur, et Satan nous attaque à cause de cette révélation. La même chose est arrivée aux premiers chrétiens. Pensez à quelqu'un qui s'est fait baptiser dans les années 60, 70 ou 80. C'était une époque de grande persécution, et certains d'entre eux, après avoir accepté Jésus-Christ, commençaient à reculer. L'auteur du livre des Hébreux leur écrivit et leur dit « Ne rejetez donc pas votre confiance, qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. » Vous vous souvenez peut-être qu'il y a plusieurs années, le président Geoffrey Holland a prononcé un discours intitulé « Ne rejetez pas votre confiance ». Il a partagé ce verset. Il a parlé de l'expérience de Moïse, de la façon dont Satan tente Moïse précisément sur la révélation qu'il vient de recevoir. Frère Holland a poursuivi en disant « Je souhaite encourager chacun d'entre vous aujourd'hui face à l'opposition qui survient si souvent après que des décisions éclairées ont été prises, après que des moments de révélation et de conviction nous ont donné une paix et une assurance que nous pensions ne jamais perdre. Oui, il y a des précautions et des considérations à prendre en compte, mais une fois qu'il y a eu une véritable illumination, méfiez-vous de la tentation de vous retirer d'une bonne chose. Si c'était bien lorsque vous priez à ce sujet, que vous lui faisiez confiance et que vous viviez pour cela, c'est maintenant. N'abandonnez pas lorsque la pression monte. Bien sûr, ne cédez pas à cet être qui s'acharne à détruire votre bonheur. Faites face à vos doutes, maîtrisez vos peurs. Ne rejetez donc pas votre confiance. Gardez le cap et voyez la beauté de la vie se dévoiler à vous. Maintenant, dans un instant, je vais vous demander si vous avez vécu une expérience de non-abandon de votre confiance que vous pourriez partager avec nous. Pendant que vous y réfléchissez, permettez-moi de partager une expérience de ma propre vie. J'étais rentré de ma mission depuis environ un an. J'étais follement amoureux de cette jeune femme. Elle n'était pas amoureuse de moi. C'était triste. Nous avons eu de nombreux rendez-vous, mais elle n'était tout simplement pas prête à s'engager. Mais en cette période décourageante, j'ai reçu de bonnes nouvelles. Une famille que j'avais instruite pendant ma mission était sur le point d'aller au temple pour être scellée, et elle a invité mon ancien compagnon et moi à assister à leur scellement. J'allais à l'école dans l'Utah. J'ai fait ma mission dans le Colorado, ce fut donc un road trip facile. Mais au dernier moment, mon ancien compagnon a fait marche arrière. Et alors je me suis dit, je vais inviter cette fille parce que peut-être qu'elle tombera amoureuse de moi pendant le road trip. Je savais que c'était une décision importante, alors j'ai prié à ce sujet. Je me sentais vraiment bien d'avancer. Je l'ai invitée. Elle a dit oui. Mais le matin où nous devions partir sur la route, j'étais tout simplement submergée de peur. Je me disais, c'est une mauvaise idée. Je ne veux pas le faire. Mes frères Hollande avaient récemment prononcé ce discours et je m'en souvenais. J'ai demandé une bénédiction à mon colocataire et j'ai senti l'esprit me dire, non, ne rejette pas ta confiance. Avancer. Alors cette jeune femme et moi sommes partis en road trip. Et certains d'entre vous ont fait des missions, et vous savez que dans vos missions, certaines familles vous aiment et pensent que vous êtes le plus grand missionnaire. Alors je l'ai emmené dans toutes ces maisons, et il disait, « Oh, frère Hilton, c'était le meilleur missionnaire. » Je lui dirais, « Oui, dis-lui en plus. Dis-lui en plus. » Nous avons donc pu voir la famille McGee scellée dans le temple. Et alors que nous rentrions du Colorado en voiture, Lonnie m'a dit, « Je pense que je suis prêt à prendre notre relation au sérieux. » Quelques mois plus tard, nous nous sommes fiancés et nous essayons désormais de vivre heureux pour toujours. Je suis tellement reconnaissant de ne pas avoir perdu ma confiance à ce moment où j'ai été inondé de peur. Comment avez-vous vu le principe de ne pas rejeter votre confiance au travail dans votre vie? J'ai l'impression que mon plus grand péché est de ne pas croire qui je suis. Nous chassons Satan, en croyant à la vérité de Dieu et non aux mensonges de Satan. Mais il est si facile de croire aux mensonges de Satan sur la vérité de Dieu, et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que la plus grande tentation que nous ayons est de ne pas croire qui nous sommes, les privilèges et la confiance que nous avons. Alors, quelle est votre suggestion? Comment pouvons-nous ne pas rejeter notre confiance et demeurer ferme dans cette croyance? Lorsque nous ressentons ces doutes et cette peur, nous avons simplement besoin de nous tourner vers sa parole et de méditer sur ses bénédictions, ses promesses, ses vérités spirituelles, et de simplement les déverser sur nous et de les prier pour nous et nos familles. Reconnaissez simplement les mensonges avec lesquels Satan nous tente et dénoncez-les pour ce qu'ils sont, que ce sont des mensonges, puis dites plus pleinement la vérité de Dieu dans nos propres vies, ainsi qu'à nos familles, nos communautés et nos amis. Merci. Donc pour moi, c'est un thème important dans ma vie, c'est la confiance. Je n'ai pas toujours été active dans ma vie. Ayant eu l'occasion de venir aujourd'hui, ma première pensée a été, vous n'en savez pas assez. Vous ne connaissez pas assez les Écritures. Vous n'en savez pas assez. Votre place n'est pas là. Mais pendant que je m'arrêtais à ces moments-là, j'entendais mon Sauveur me parler et me dire, je te retrouve là où tu es. Sachant simplement que j'ai une place et qu'il vous connaît vraiment lorsque vous écoutez ses chuchotements, il vous rencontre là où vous êtes. Et donc, lui faire confiance me permet d'avancer, même si c'est beaucoup plus tard dans ma vie, et même si je n'ai pas grandi en étudiant les Écritures et tout ça, il me rencontre là où j'en suis. Et donc il me donne cette confiance chaque jour. Alors, quand vous êtes tenté d'arrêter et de dire, je ne suis pas assez bien, comment ne pas perdre votre confiance? Eh bien, je dois généralement vraiment, vraiment m'arrêter et écouter, et je dois laisser l'amour pénétrer. Je veux repousser parce que je pense qu'il faut simplement souffrir, mais ce n'est pas utiliser correctement l'expiation. Donc permettre à l'expiation d'agir dans ma vie quotidiennement et lui permettre de me murmurer qui je suis et que je suis un enfant de l'Alliance et que j'ai une place ici sur cette terre. C'est habituellement comme ça que je fais ça. Merci. Ce sont vraiment magnifiques. Donc si nous revenons à la situation de Moïse, Satan dit à Moïse, « Fils de l'homme, adore-moi. » Remarquez la réponse de Moïse. « Qui es-tu ? » « Voici, je suis un fils de Dieu à l'image de son fils unique. Où est ta gloire pour que je t'adore ?» Notez que Moïse a tellement confiance en son identité qu'il n'a pas besoin de prêter attention aux tentations de Satan. Et puis Moïse dit, « Je ne cesserai d'invoquer Dieu. J'ai d'autres choses à lui demander, car sa gloire est sur moi, c'est pourquoi je peux juger entre lui et toi. Par d'ici, Satan. » Maintenant, remarquez que parce que la gloire de Dieu a été sur Moïse, Moïse est capable de mieux discerner la supercherie de Satan. Pensez-y en relation avec cette histoire. Il y avait un homme qui travaillait pour le Trésor américain. Un soir, lors d'une conférence de presse, suite au démantèlement d'un important réseau de contrefaçon, l'un des journalistes lui a adressé cette déclaration. Il faut passer beaucoup de temps à étudier les faux billets pour les reconnaître si facilement. Sa réponse fut, non, je n'étudie jamais les faux billets. Je passe mon temps à étudier de véritables factures. L'imperfection est alors facile à reconnaître. Il existe de nombreuses contrefaçons dans le monde. Que vous apprend cette histoire sur la façon de reconnaître ces contrefaçons? J'aimerais pouvoir dire qu'il était aussi simple que Moïse prie et dise « Sors d'ici, Satan, mais regarde ce qui se passe ensuite. » Lorsque Moïse a prononcé ces paroles, Satan a crié d'une voix forte et a divagué sur la terre et a ordonné de dire « Je suis le seul engendré. Adore-moi. » Moïse commença à avoir extrêmement peur. Il y aura certainement des moments où la peur affluera, où nous serons dos au mur, où il semblera qu'il n'y a plus d'espoir. Que faisons-nous dans ces circonstances? Invoquant Dieu, Moïse reçut de la force. Vous n'abandonnez pas, Satan commença à trembler, la terre trembla et Moïse reçut de la force et invoqua Dieu en disant « Au nom du Fils unique, pars d'ici, Satan. » Et il arriva que Satan s'en alla. Cela nous rappelle que Dieu est toujours plus puissant que le diable. Quels que soient les défis que vous rencontrez ou vivez, ne rejetez pas votre confiance. Restez avec le Seigneur, invoquez-lui la force. Maintenant, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, nous avons sauté directement dans Moïse 1. Nous n'avons même pas parlé de l'origine du livre de Moïse, ni de la manière dont nous l'avons obtenu. Certains d'entre vous sont probablement en train de penser « Waouh, j'aimerais pouvoir avoir beaucoup plus de contexte pour le livre de Moïse. » Voyou Exas. Il s'avère que j'ai des amis. Ils ont écrit un livre de 600 pages consacré au livre de Moïse. Il est disponible gratuitement sur le site du cours. J'espère que vous l'obtiendrez et que vous le vérifierez. Maintenant, nous avons parlé de la situation de Moïse, qui ressemble à ce regard approfondi sur la tentation. Mais cela fait partie d'un schéma plus large d'épreuves que nous rencontrons dans la vie. Si nous revenons à Abraham 3 dans les conseils prémortels, le Seigneur dit « Nous ferons une terre sur laquelle ils pourront habiter, et nous les éprouverons par la présente pour voir s'ils feront tout ce que l'Éternel, leur Dieu, leur commandera. » Les tentations, les épreuves que nous avons dans la vie, peuvent en faire partie. Le Seigneur a dit que ceux qui gardent leur second état, c'est-à-dire sont fidèles dans la condition mortelle, auront une gloire ajoutée sur leur tête pour toujours et à jamais. Et cela nous amène à notre dernier point de gloire. Maintenant, je l'ai probablement déjà révélé en mentionnant le mot « gloire ». Mais pouvez-vous deviner au cours des 80 dernières années, quel verset de l'Écriture a été le plus fréquemment cité lors de la conférence générale? C'est Moïse 1h39, car voici, mon œuvre dans ma gloire est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Si vous regardez ce graphique, vous verrez qu'il a été cité plus de deux fois plus souvent que le deuxième passage le plus cité. Il doit y avoir quelque chose de vraiment génial dans ce verset pour nous. L'un des outils d'étude des Écritures que je recommande vivement d'utiliser est l'index des citations des Écritures. Il existe une application que vous pouvez télécharger ou la trouver dans les Écritures. BYU. EDU. Si vous téléchargez l'application, cela ressemble à ceci. Lorsque vous cliquez dans les différents livres d'Écriture, par exemple, cliquez ici sur Moïse, cliquez sur chapitre 1. Vous pouvez voir Moïse 1h39, toutes les fois où il a été cité. Ensuite, lorsque vous cliquez dessus, cela vous amènera à chaque fois qu'un dirigeant de l'Église a cité ce verset lors d'une conférence générale. Si vous cliquez dessus, vous pouvez lire en contexte ce qu'ils ont dit à propos du verset. C'est un excellent moyen d'obtenir plus d'informations sur les Écritures. Je vous encourage, pendant que vous étudiez les Écritures, à profiter de cet outil. L'un des commentaires prophétiques sur Moïse 1h39 que j'ai vraiment apprécié vient de David Abednar. Il a dit, une écriture complémentaire à Moïse 1h39 se trouve dans Doctrine et Alliance 11h20. Il est intéressant de noter que ce verset ne semble pas aussi connu et n'est pas cité très. Free comment. Doctrine et Alliance 11 dit, voici, votre tâche est de garder mes commandements, oui, de toute votre puissance, de tout votre esprit et de toute votre force. Donc je pense que c'est drôle, L.D. Bednar souligne que nous aimons vraiment le verset sur l'œuvre de Dieu, mais le verset sur notre travail, nous nous disons, je ne connais pas autant ce verset. L.D. Bednar poursuit. Ainsi, l'œuvre de Dieu se concentre sur la progression et l'exaltation de ses enfants. Notre travail en tant que fils et filles de Dieu est de l'aimer et de respecter ses commandements. Pour moi, c'est un rappel vraiment réconfortant. Parce que peut-être parfois dans ma vie, peut-être dans votre vie, j'ai l'impression d'être à la hauteur. Je me dis, eh bien, je ne serai jamais assez bien. Mais pour me préparer à la vie éternelle, Dieu dit que c'est son œuvre. Et il a dit, je suis capable de faire mon propre travail. Oui. J'ai besoin d'aimer Dieu. Je dois m'efforcer de respecter les commandements. Mais en fin de compte, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Ce n'est pas un travail que je dois faire moi-même. Ou penser à un être cher. Peut-être avons-nous un cousin, un parent, un frère ou une sœur, un enfant qui a des difficultés dans son témoignage, et cela nous fait mal au cœur. Et nous pensons, eh bien, comment vais-je les aider à aller au paradis? Ce n'est pas mon travail. C'est l'œuvre de Dieu et sa gloire pour réaliser la vie éternelle des hommes. Oui. Je peux aimer. Oui, je peux continuer à exercer mon ministère, mais je peux trouver une grande paix si j'ai confiance que Dieu est capable d'accomplir sa propre œuvre. Il y a un autre verset sur la gloire vers lequel je veux me tourner, et il concerne le premier péché enregistré. Avant que Caïn ne tue Abel, avant le fruit défendu, lors du conseil prémortel, nous voyons ce que je pense être le premier péché enregistré. C'est Satan qui veut la gloire pour lui-même. Il dit, je rachèterai toute l'humanité afin qu'une seule âme ne soit pas perdue. C'est pourquoi donne-moi ton honneur. En revanche, Jésus-Christ a dit « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire soit à toi pour toujours. » Ces opposés contrastés de thésauriser la gloire ou de la donner à Dieu apparaissent tout au long des Écritures. Par exemple, dans Acte 12, il est question d'un discours prononcé par Hérode Agrippa. Or, selon l'historien Joseph, Acte 12 se déroule dans ce même théâtre de Césarée. C'était la capitale romaine de la Judée. C'était l'endroit où Pilate vivait habituellement. Hérode Agrippa était là. Il a prononcé ce discours puissant. Il était vêtu de tous ses atours royaux et le peuple poussait des cris. Ils dirent, « C'est la voix de Dieu et non celle de l'homme. » Hérode dit, « Oh, ouais, je suis génial. » Immédiatement, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, un ange du Seigneur le frappa, et il fut mangé par les vers et mourut. La fin. Maintenant, seulement deux chapitres plus tard, Paul et son compagnon sont dans une simulation. Situation similar. Ils prêchent l'évangile. Ils font des choses incroyables. Et les gens se mettent à crier et à appeler Paul et Barnabas des dieux. Mais remarquez à quel point la réponse de Paul est différente. Il dit au peuple, « Nous ne sommes que des humains comme vous. Nous vous apportons une bonne nouvelle, vous disant de vous tourner vers le Dieu vivant. » Pensez donc à ce contraste entre Hérode Agrippa et Paul. Hérode lui rend gloire. Paul le renvoie. « Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas ça, je ne sais pas, si l'un de vos enfants vous fait un compliment du genre. Oh, merci pour les bonnes lasagnes, maman. » Tu dois être comme, toute louange revient à Dieu. Mais je me demande parfois, que ce soit verbalement ou intérieurement, si nous ne ferions pas mieux de donner plus de gloire à Dieu. Parce que si vous y réfléchissez, Dieu ne nous dit pas de rendre gloire parce qu'il a un complexe de faible estime de soi et qu'il a besoin de beaucoup d'affirmations de notre part. Dieu veut que nous lui rendions gloire parce qu'il sait que c'est mieux pour nous. Rendre gloire à Dieu nous rappelle qu'il ne s'agit pas de ce que nous avons ou de ce que nous avons fait. Il s'agit de qui nous sommes et de ce qu'il a fait. Ainsi, rendre gloire à Dieu nous aide à avoir cette sécurité que nous ne pouvons pas perdre. Maintenant, nous avons regardé la vie prémortelle, nous avons regardé le premier siècle. Et à notre époque, comment nous voyons cela aujourd'hui? Voici donc Gabriel Medina. Il est sur le point d'obtenir le meilleur score jamais enregistré aux Jeux Olympiques de surf. Surfer sur la vague parfaite, le fait parfaitement. J'espère que c'est moi dans la résurrection. C'est mon rêve de résurrection ici. Et alors qu'il termine, remarquez ce geste qu'il fait. Si nous le regardons sous un angle différent, vous pouvez voir qu'il lève un doigt en l'air, ce qui donne l'impression qu'il dit « Je suis le numéro un ». L'un des commentateurs sportifs dit en effet que Medina a réellement le droit et l'autorité de se considérer comme le numéro un. Mais le fait est que ce n'est pas ce que Medina disait. Il vient du Brésil et là-bas, ce geste signifie quelque chose de différent. Un commentateur brésilien a déclaré « Medina dit « Ce n'est pas moi que tu devrais regarder, c'est Dieu. Ce moment de gloire n'est pas le mien, mais le sien. » Dans cet ultime moment de triomphe, il nous pointe vers le haut. En fait, dans sa publication Instagram avec cette photo, il cite Philippiens 4, « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. » En interne, il peut y avoir une grande puissance dans nos cœurs, que ce soit verbalement ou intérieurement. Lorsque quelqu'un nous fait la louange, nous renvoyons cette gloire à Dieu. Considérez donc l'une ou l'autre de ces deux questions. Tout d'abord, pensez à un moment récent où vous avez été félicité ou reconnu. Avez-vous redirigé ce moment vers Dieu? Ne serait-ce que mentalement. Sinon, comment auriez-vous pu le faire? Deuxièmement, si quelqu'un vous attribue du mérite pour quelque chose, quelle est la manière naturelle et non prêcheuse de vous orienter vers Dieu? Mon fils est actuellement au MTC de Mexico et son compagnon a eu beaucoup de mal à y arriver. Il n'a pas pris son avion. Quoi qu'il en soit, au cours de tout cela, ses bagages ont été perdus et il ne les a pas eus pendant une semaine entière. Je l'admire vraiment et la façon dont il a pu diriger les autres vers Jésus-Christ, parce que chaque fois que quelqu'un lui demandait comment il allait ou voyait, et tu es si heureux. Vous faites vraiment du bien en considérant toutes les circonstances de sa folle situation de fuite et en n'ayant aucun de ses effets personnels avec lui. Mais chaque fois que quelqu'un lui posait la question, il répondait simplement « J'ai la foi ». Et je pensais juste que c'était une façon si belle et si simple de le diriger vers Dieu que c'était comme « Oui, je vais très bien, mais je vais bien parce que j'ai foi en Jésus-Christ et en mon Dieu que j'aime, et je sais qu'il prendra soin de moi ». Et bien sûr, après de nombreuses prières et une semaine plus tard, son sac est arrivé et il était si heureux et a continué à dire « J'ai la foi et j'aime ça. Beau. Merci. » Ainsi, dans les domaines dont nous avons parlé aujourd'hui, l'identité, la tentation et la gloire, comme dans toute chose, Jésus-Christ donne l'exemple parfait à chacun de nous. J'ai appris cette idée de mon ami Matt Gray. Si je devais vous emmener au Jourdain où Jésus-Christ a été baptisé et que vous entendiez une voix venant du ciel, que pensez-vous que cette voix dirait? La plupart d'entre nous diraient probablement « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et c'est le récit que nous lisons dans Matthieu. Marc et Luc l'enregistrent légèrement différemment. Dans Luc, nous lisons qu'après son baptême, le Christ priait. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix vint du ciel. « Toi es mon Fils que j'aime. Avec toi je suis bien content. » Dans le récit de Marc et Luc sur le baptême du Christ, il ne s'agit pas d'une annonce générale à la foule. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est un message personnel au Sauveur. De toute évidence, Jésus-Christ savait déjà qui il était lorsqu'il était un garçon de 12 ans dans le temple. Il dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Mais il semble qu'à son baptême, peut-être d'une manière plus profonde ou à un autre niveau, ligne après ligne, Jésus-Christ reçoive une révélation sur qui il est en tant que Fils de Dieu. Que se passe-t-il juste après cette révélation ? Temptation. Satan vient dans le désert. Si vous êtes le Fils de Dieu, tentez-le sur la révélation même qu'il vient de recevoir. Mais Jésus-Christ était sûr de son identité. Il résiste à cette tentation. Nous avons déjà vu que Christ a donné la gloire à Dieu dans sa vie prémortelle. Il a continué ce modèle sur terre. Juste avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani, il dit « Père, je t'ai apporté la gloire sur terre en achevant le travail que tu m'as donné de faire. » Parce que Jésus-Christ a terminé cette œuvre et accompli son expiation, il comprend comment nous aider à faire face à nos propres insécurités et tentations. Dans le livre des Hébreux, nous lisons « Approchons-nous du trône de grâce de Dieu avec confiance afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans nos moments difficiles. » Le Christ sait exactement comment nous aider dans nos tentations parce qu'il les a surmontées. En fait, il y a un verset dans Moïse 1 où Dieu dit « Toutes choses sont présentes auprès de moi, car je les connais toutes. Ainsi, quels que soient les défis ou les difficultés auxquels vous faites face, vous êtes connus. Votre situation exacte en ce moment est présente devant Dieu. Et nous pouvons le dire en toute confiance. Alors, quand l'adversaire, qui, espérons-le, ne prend pas la forme d'une chenille fumante, dit « Qui es-tu ? » J'espère que nous nous souviendrons que je suis un enfant de Dieu, un enfant de l'Alliance, un disciple de Jésus-Christ. Nous pouvons dire cela avec confiance grâce à Jésus-Christ. En fin de compte, c'est Jésus-Christ qui nous donne la sécurité que nous ne pouvons pas perdre.